Radio Campus Orléans 88.3 FM.
Ça transpire.
Vous êtes les meilleurs. N'oubliez jamais ça.
Radio Campus. La science infuse.
Bonsoir, je suis Alix, VPG de l'association FEM.
Et Quentin, VP Cinéma de l'association Tributaire.
Nous nous retrouvons pour la seconde partie de l'émission sur le VIH.
Et nous sommes toujours en compagnie de la docteure Lucille Mollet.
Bonjour. Oui, je suis toujours là, bonjour.
Ainsi que du docteur Thierry Prazuc.
Bonjour.
Comme on l'a présenté lors de la première partie, les avancées sur la recherche sur le VIH continuent et il y a toujours énormément de chercheurs et de chercheuses qui recherchent pour comprendre comment fonctionne cette maladie et ce virus. Depuis quelques années, nous n'en parlons plus beaucoup, mais où en est-on de la recherche et est-ce que vous pouvez nous renseigner sur l'avancée des connaissances humaines sur le VIH ?
Oui, nous allons nous charger de cette mission. Donc, où est-ce qu'on en est exactement ? Déjà, un petit état des lieux pour savoir de quoi on parle vraiment. Donc, il y a un organisme qui dépend de l'ONU, qui s'appelle ONU-SIDA, qui est très actif au niveau de tout un tas de pays du monde, qui envoie en fait des questionnaires et qui fait un peu des analyses sur où en est l'épidémie. Et globalement, il y a plus de 80% des pays qui répondent à ces fameux questionnaires, ce qui donne vraiment une bonne image de l'épidémie. Globalement, le VIH, depuis 2020, donc ça a un petit peu augmenté depuis, on est autour de 37-38 millions de personnes à la surface du globe qui sont infectées, avec une répartition assez hétérogène. Une concentration importante de personnes positives, notamment en Afrique subsaharienne. Donc ça, c'est une photo à l'instant T, les gens qui vivent avec le VIH. Et puis, il y a des données qui sont aussi importantes. C'est une estimation des nouveaux cas par an. Et donc, si on réussit bien son coup, en termes de prévention, on est censé avoir de moins en moins de nouvelles personnes qui se contaminent. Et vous voyez qu'à l'heure actuelle, on est toujours autour de, à la surface du globe, de 2 millions de personnes tous les ans qui font nouvellement infectées. Alors vous voyez que ces 2 millions de personnes, ça regroupe à la fois les adultes et les enfants. Ce qui, en ce qui concerne les enfants, veut dire que le dépistage des mamans n'est pas suffisamment bien répandu à la surface du globe et qu'ils vont l'attraper par transmission de la mère à l'enfant. Puisque, en fait, une maman efficacement traitée a plus de charge virale et elle donne plus le virus à son enfant. Donc, c'est des contaminations qui pourraient être évitées si les gens étaient traités partout de par le monde. Donc on a des nouveaux cas, des nouvelles infections. Ce que nous permet d'avoir comme renseignement l'ONU-SIDA, c'est la répartition de ces fameux nouveaux cas. Donc ça fait quand même pas mal de gens, parce que ça fait quand même 6000 nouvelles infections par jour. Et la moitié de ces infections reste en Afrique subsaharienne, ce qui explique pourquoi c'est la région du globe où il y a le plus de personnes infectées. Sur ces 6000 nouvelles infections par jour, 700 enfants. Donc, je ne vous refais pas le coup de la transmission de la mère à l'enfant, le traitement, tout ça, là, on est dedans. Hein. 700 enfants infectés par jour qui n'auraient pas dû. Il reste 5300 adultes. Et ce qui est important de noter, c'est que la moitié sont des femmes ou des jeunes filles. Et un tiers ont entre 15 et 24 ans. Donc pourquoi c'est important de connaître ce genre de paramètres ? Eh bien parce que connaître les populations touchées, nouvellement infectées, ça permet de mieux communiquer et de mieux asseoir la prévention. C'est clair que si la population avait été les gens encore jeunes, de autour de 50 ans, ça aurait été différent d'une communication aux auditeurs de Radio Campus et aux gens dans la salle. Et il y a des femmes. On n'est plus dans une maladie, comme vous disait le docteur Prasuc dans le premier épisode du podcast, avec une infection qui touche les homosexuels qui sont stigmatisés, les homosexuels hommes. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va faire des campagnes. Chaque minute, une jeune femme est infectée par le VIH. Donc vous voyez le stress qui monte. Hein. On était parents, puis on est passé par minutes. Et une femme infectée toutes les minutes, ça fait quand même beaucoup de femmes. On assoit également autour de ça tout un tas d'analyses socio-économiques. Ce qui est intéressant dans le domaine du VIH, c'est qu'en fait, tous les domaines de recherche peuvent travailler ensemble. Tout à l'heure, dans la première partie du podcast, on a travaillé avec l'éthologie et les chimpanzés. On a fait de la biologie moléculaire et l'horloge moléculaire. Et puis, on peut faire de la sociologie, en fait, aussi. Hein. 40% des jeunes femmes à la surface du globe rapportent que leur premier rapport sexuel n'était pas un rapport consenti. Donc ça fait partie des choses qui n'aident pas. Voilà. Et si vous vous souvenez, 33%, donc un tiers, ont entre 15 et 25 ans. Donc pour, j'ai mon petit quiz favori que les étudiants de L3 Sciences de la vie qui prennent l'option virologie connaissent. Mais que je vais vous refaire, parce que c'est quand même assez frappant. Donc tous les ans, SIDAction font des sondages auprès des jeunes, puisque un tiers des jeunes, patati patata. Et donc, une des questions qui a été posée aux 15-25 ans, c'est selon vous, le virus du SIDA peut-il être transmis ? Donc il y a plusieurs cas de figure, et on peut choisir un ou plusieurs cas. Donc dans ce qui est noté, il y a en se faisant piquer avec une seringue, usagée, contaminée bien sûr, hein, en rentrant en contact avec le sang d'une autre personne, en se faisant tatouer, en s'embrassant, en s'asseyant sur un siège de toilette publique, en rentrant en contact avec la transpiration de quelqu'un, en buvant un verre d'eau ou en serrant la main d'une autre personne. Donc ce qui fait un peu peur, c'est que 6% des 15-25 ans pensent qu'en serrant la main de quelqu'un, on va attraper le VIH. Et 10%, un petit peu plus de 10% quand on boit dans le verre ou suite à la transpiration. Bref, c'est assez alarmant et ça vous amène progressivement à comprendre ce que va vous expliquer le docteur Prasuc tout à l'heure autour des problèmes de discrimination. Parce que quand on est aussi mal informé que ça, forcément, ça crée du grabuge. Donc les bons résultats, hein, c'est se faire piquer par une seringue usagée, rentrer en contact avec le sang d'une personne qui est non traitée et éventuellement se faisant tatouer ou des piercings avec du matériel à usage non stérile. Voilà. La deuxième, elle est pas mal aussi, je l'aime beaucoup. Pour chacun des moyens suivants, diriez-vous qu'il est tout à fait ou plutôt efficace ou plutôt pas du tout efficace pour empêcher la transmission ? Et donc on a préservatif masculin, préservatif féminin, la pilule contraceptive d'urgence, hein, la pilule du lendemain, hein, à ne pas confondre avec la pilule contraceptive classique, hein, on le sait bien que les deux ont des différences de protection contre le VIH. Le produit de toilette intime, également très efficace, ainsi que le comprimé de paracétamol. Alors tenez-vous bien, mais il y a encore 6% des mini-vous, puisqu'on est dans les 15-25 ans, qui pensent que le comprimé de paracétamol est très efficace pour se protéger de la transmission du VIH. Et la pilule contraceptive, un petit peu moins, 14%, par rapport à la pilule d'urgence à 17%. Donc on est quand même mal barré avec des trucs comme ça, et il faudrait un peu relancer la prévention. Parce que si vous regardez un petit peu ce graphe, en haut, vous avez l'évolution des nouveaux cas et puis avec une chute dans les années 90, qui, en fait, cette chute des nouveaux cas tombe avec la prévention. Alors que la chute des décès, eh bien, elle ne tombe pas avec la prévention. Ce qui permet au nombre de décès de diminuer, c'est l'apparition des traitements efficaces. Parce qu'avant ces traitements efficaces, on était face à une maladie incurable, irréversible, mortelle et stigmatisante. Donc, dans la première partie du podcast, le docteur Prazuk vous a parlé du cancer gay. J'ai une petite affection, pas du tout, contre également la terminologie maladie des 4 H. Et donc, si vous réfléchissez aux 4 H, on a les homosexuels, les hémophiles, qui ont été aussi assez stigmatisés à une époque, les héroïnomanes et les derniers qui n'avaient rien demandé, les haïtiens, qui sont le 4e H.
L'espérance de vie, effectivement, la mortalité, c'est une maladie mortelle dans 100, alors peut-être pas 100% des cas, parce qu'il y a de rares cas qui sont des patients qui sont, qu'on appelle les contrôleurs naturels du VIH, ça représente 0,3% des patients. Il y a encore des patients qui ne peuvent pas être infectés par le VIH, hein, ce sont des patients qui ont une mutation génétique, ce sont des Européens, et c'est une mutation qui date de l'an 300 ou 400 après Jésus-Christ, donc au moment des invasions barbares. Bref, tous les autres, ils meurent au bout d'un certain temps, au bout de 3 à 10, 15, même 20 ans. Mais malheureusement, l'évolution, donc les patients qui nous disent « Oh, je vais arrêter mon traitement parce que je vais aller à l'église et je vais prier et là, je vais guérir du sida. » Bon, bah, si vous voulez, donc vous arrêtez le traitement, on refait une charge virale, bah, vous voyez madame, je dis madame parce que souvent c'est plutôt des dames qui vont à l'église, la charge virale est bien remontée, donc vous n'avez pas guéri du sida. Il faut parfois plusieurs épisodes de discussion pour pouvoir convaincre les personnes qu'elles sont réellement malades et que si elles ne font rien, elles vont décéder. J'ai vu une de mes patientes, là, ça fait depuis 2014, je la vois, et à l'époque, elle ne voulait pas prendre de traitement. Elle n'est pas africaine, elle était, je crois, institutrice. Elle dit, non, moi, mon corps va résister. Et puis, ça s'est dégradé. Et puis, à un moment, je l'ai vue, et j'ai fait en sorte que ce soit elle qui prenne la décision de prendre le traitement, et pas moi qui le lui impose. Et alors maintenant, elle va très bien. Et finalement, c'est une relation qu'on a avec des patients qu'on suit depuis 20 ans, 15 ans, 10 ans. On se voyait vieillir. Tiens, l'autre jour, aujourd'hui, j'en ai vu un qui m'a dit, j'ai un de mes patients, il habite en Alaska. Il est venu me voir aujourd'hui. Il me dit, j'ai dit, j'ai 10 ans de plus que vous. Elle me dit, vous allez bientôt partir à la retraite. Donc il a peur que je parte à la retraite parce que ça fait 25 ans que je le suis. Bon, je dis non, vous inquiétez pas. Bon, donc il y a eu donc cette mortalité qui a touché énormément de patients en Afrique, notamment en Afrique australe et dans le KwaZulu Natal, donc en Afrique du Sud. On a vu apparaître à partir de 2004 une remontée de l'espérance de vie. Cette montée de l'espérance de vie, en Europe et aux États-Unis, elle est apparue en 1995. Vous voyez, il a fallu 10 ans pour que les traitements soient efficaces, soient accessibles en Afrique. Et c'était en 2004, c'était des traitements que les Africains pouvaient avoir, mais que nous, on avait déjà abandonnés parce qu'ils étaient toxiques. Aujourd'hui, les choses ont quand même globalement changé. On peut dire que les traitements qui sont disponibles en Afrique sont à peu près similaires à ceux qu'on a en France. Donc, c'est une bonne chose, mais 10 ans d'écart, 10 ans encore, même plus, 15 ans pour avoir des traitements à peu près similaires. Vous voyez le décalage qu'il peut y avoir entre les continents. Donc, dépister et traiter plus tôt, voilà, aller vers des populations clés, ne laisser personne en chemin. Donc aujourd'hui, en France, on a environ 6000 contaminations par an. Ça ne bouge plus beaucoup. Hein. À Orléans, on suit environ 1250 patients infectés par le VIH. Et je peux dire que presque toutes les semaines, j'ai des nouveaux patients. À Orléans. Hein. Alors, ça peut être des patients qui déménagent, Mais ça peut être aussi des patients qui viennent d'être infectés. Et j'en ai régulièrement, tous les mois, des nouvelles personnes qui sont infectées. Et pas que des gays, et pas que des Africains. Je vois, j'étais en vacances la semaine dernière, la semaine d'avant, je vois une personne qui m'est adressée par un médecin traitant parce qu'il a une sérologie positive, douteuse. Je le vois, il a le surlendemain, je rencontre les personnes, donc c'était un monsieur, 23 ans, et sa compagne, 27 ans. Et je dis, bon, a priori, ils sont en couple. Deux possibilités. Soit c'est un faux positif. Il y a des tests faussement positifs en ELISA, hein, le test de dépistage. Soit c'est une primo-infection. Ça veut dire qu'il était contaminé récemment. Et donc, j'interroge pour savoir ses pratiques sexuelles. Ils sont ensemble depuis 2 ans. Ils ont des relations non protégées. Il n'y a pas de problème. Ils ne comprennent pas vraiment. Bon, non, mais c'est peut-être un faux positif. Je fais un test rapide. Là, j'ai le résultat dans la minute. Même pas, dans les 30 secondes qui suivent. Le test rapide. L'autotest que vous pouvez avoir en pharmacie. Que vous pouvez acheter sans ordonnance. Positif. Ah, là, les test rapide faussement positif, c'est plus rare que les ELISA positifs. Faussement positif, il y en a plus en ELISA. Donc là, je me dis, il y a quelque chose, j'appelle le labo, etc. Et puis, madame, on va vous tester. Ah, mais moi, j'ai fait le test il y a 5 ans, c'était négatif. Bon, fait le test il y a 5 ans, et là, j'ai fait le test rapide. Waouh, positif tout de suite. Alors là, deux mauvaises nouvelles. Donc le monsieur, il était en primo-infection, donc il était contaminé depuis 3 semaines, alors que ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble. Et c'est elle qui l'a contaminé. Que s'est-il passé? Ah non, non, il y a 1 an, on regarde l'historique dans le labo. La dame, infection à chlamydia, infection à gono. Elle ne l'a pas dit à son compagnon. Donc voilà, le problème, c'est le suivant. C'est qu'elle, elle va voir ailleurs. Ok, très bien. Et elle ne se fait pas retester. Mais vous voyez, pendant 2 ans, ils ont eu des relations sexuelles. Il n'a pas été contaminé. Il a été contaminé. Pourquoi? Parce que le risque de contamination au cours d'un rapport sexuel non protégé avec quelqu'un de séropositif, c'est combien? C'est 100%? C'est 50%? C'est 1%? C'est 0,1%? Vous connaissez la réponse? Alors, dans le sens femme-homme, femme positive, homme négatif, c'est environ 3 pour 1000. D'accord? Dans le sens homme-femme, c'est 5 fois plus. Les rapports anaux sont beaucoup plus contaminants que les rapports vaginaux. Parce que le vagin, il se défend naturellement contre un certain nombre de pathogènes. Donc, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Parce qu'ils ont commencé à avoir des relations sans préservatif. C'est quoi le truc? Bah non, non, mais moi je suis clean. Toi aussi? Mais moi aussi je suis clean. Bon, bah ok, on peut y aller. Bah c'est pas ça le truc. Je ne te fais pas confiance. Ah ouais, je t'aime, mais je ne te fais quand même pas confiance. Montre-moi le résultat. Ou alors on fait le test ensemble et on voit le résultat. Parce que sinon, voilà, ce qui se passe, c'est que vous vous faites berner. Vous, les jeunes, vous acceptez d'avoir des relations sans préservatif, sans avoir fait les tests chlamydia, gono, VIH, et j'espère que vous êtes vaccinés contre les hépatites. Mais ne faites pas confiance tant que vous n'avez pas vu le résultat sur le papier. C'est vraiment essentiel. Là, ils auraient fait... alors évidemment, là, manifestement, elle est peut-être allée voir ailleurs, hein, certainement d'ailleurs. Et je ne sais pas quand est-ce qu'elle a été contaminée, si c'était avant les 2 ans ou autre. Bon, à la limite, moi, ce n'est pas mon problème. Le problème, c'est que là, c'était quelque chose qui pouvait être évitable, puisque si la compagne, elle avait été diagnostiquée et traitée, elle n'aurait pas contaminé son compagnon. Voilà. Alors, le risque de contracter le virus, hein, donc voilà, il est 35 fois plus élevé lorsqu'on utilise des drogues. Les professionnels du sexe, 30 fois plus. Les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, parce que la muqueuse anale, elle est super vascularisée. Et en fait, il n'y a pas de protection comme la muqueuse vaginale, qui est un système immunitaire à part entière, hein, contrairement à la muqueuse anale. Donc les relations anales ne sont pas réservées qu'aux hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, bien sûr. Alors les découvertes de contamination aujourd'hui, eh bien effectivement, c'est quand même dans la population gay et dans la population africaine notamment qui arrive en France. Alors on dit que sur le trajet migratoire, hein, il y a aussi des abus sexuels, des sévices, etc., et des personnes qui ont été contaminées. Mais il y a également des contaminations autochtones pendant la première année de séjour en France, parce qu'également, il y a une précarité qui fait qu'il y a plus de prise de risque. Voilà. Et les hommes hétérosexuels nés à l'étranger, donc diminution, parce qu'il y a une diminution de la migration. Avec la loi immigration, ça va être encore plus caractéristique, probablement. Puisqu'on aura beaucoup moins de personnes qui vont venir. Donc la prévalence, vous voyez que la prévalence dans la population générale, en France, c'est 0,3-0,4%. Donc 3 pour 1000. Hein, c'est quand même plus que de gagner à l'euro million. Hein, c'est à 1 pour 50 millions, à peu près. Donc, alors, vous voyez les différences qu'il peut y avoir, notamment avec la population HSH, où la prévalence est de 17%. Elle était même de 30% dans certains milieux gays à Paris. Et puis, dans la population des usagers de drogue, alors plus aujourd'hui, ils ne se contaminent plus, ils se contaminent avec l'hépatite C par l'utilisation de paille, notamment. Hein, mais elle était à peu près similaire. Alors que vous voyez que dans la population hétérosexuelle française, des femmes, on est à 0,12%. Le temps médian entre la contamination et le diagnostic qui va être fait soit à l'occasion d'un dépistage parce que il y a une grossesse, parce que éventuellement il y a un mariage. Bon, le mariage, avant c'était obligatoire de faire le dépistage de VIH avant le mariage. Maintenant, ça ne l'est plus. Eh bien, ou alors parce que la personne est malade. Eh bien, à ce délai, il est d'environ 3 ans. Donc 3 ans sans savoir qu'on est contaminé et qu'on va transmettre. Dès qu'on le sait, on va le voir. C'est ce qu'on appelle. Alors ça, je vais peut-être le passer parce que on n'est pas en avance. C'est la cascade de prise en charge. Hein. La cascade de prise en charge, c'est le nombre de personnes qui sont réellement infectées en France, le nombre de personnes qui sont diagnostiquées, donc 84% sont diagnostiquées, donc il y en a 16% qui ne le savent pas. D'accord ? Ensuite, ceux qui sont sous traitement. Donc c'est cette épidémie cachée, la partie immergé de l'iceberg, ça représente quand même 24 800 personnes. Alors, c'est des calculs mathématiques hein, qui sont faits à partir de la prévalence dans les différents groupes, homosexuels ou personnes d'origine africaine, combien on devrait en avoir et combien on en a réellement sur les statistiques nationales. Donc, il en manque 24 600. Ensuite, c'est les personnes qui sont mises sous traitement, 75%. Donc ceux-là, à partir de là, ils ne transmettent plus le virus, puisque, a priori, leur charge virale va être indétectable. Donc, vous voyez, dans 90% des cas, ils ont une charge virale indétectable.
Donc, il y a une étude qui a été lancée par le docteur Prasu, qui est un de ses collaborateurs les plus proches, Laurent Auclou, sur le moment à laquelle le traitement est donné. Et en fait, il y a quelques instants, il vous parlait du diagnostic et du diagnostic en primo-infection. Donc, ça veut dire pas très longtemps après la contamination, plutôt qu'attendre un an, 2 ans après. Et donc, l'étude qui a été réalisée à Orléans, initialement sur 14 personnes détecté positif pendant cette fameuse phase de primo-infection, c'est-à-dire grosso modo dans le premier mois après l'événement contaminant. Et là, ce qui se passe, c'est que les personnes ont été placées tout de suite sous trithérapie efficace. L'étude était dessinée comme ça. Donc une prise de traitement efficace au niveau de l'étude, je me rappelle plus pendant combien de temps. L'exemple ici, c'est de 6 ans. Et puis, le traitement est arrêté. Et ce qui est assez impressionnant dans cette étude, c'est que dans l'exemple que vous voyez là, on arrête le traitement, mais le virus ne remonte pas. Ce qui est complètement différent de ce qui se passe quand les patients ont un traitement, quand la maladie elle est installée. Quand la maladie elle est installée, vous prenez le traitement et vous êtes obligé de le prendre à vie. Pourquoi ? Parce que le virus est caché dans des réservoirs qui se sont établis pendant cette fameuse primo-infection, avant que le système immunitaire se mette en route et avant que les CD8 tueurs se mettent à tuer les cellules infectées et à éliminer le virus. Eh bien, le virus en profite pour aller établir des réservoirs à plusieurs endroits cachés dans le corps. Et donc, ici, il se trouve que chez ce patient qui est présenté là, le fait de prendre un traitement pendant plusieurs années, juste à la primo-infection, on arrête le traitement et le virus ne ressort pas. Ça veut dire que les gens vont se retrouver un peu à l'équivalent des contrôleurs naturels dont le docteur Prasuc vous parlait tout à l'heure. Et sur cette première étude, vous voyez, il y a un certain nombre de patients, les 14 là. Et en fait, ça a marché chez 10 d'entre eux. Pour 10 personnes qui se sont dit « Ah bah tiens, j'ai eu un comportement à risque là, si j'allais me faire dépister. » Et puis qui y sont allés et qui s'est avéré que le comportement était à risque et qui ont donc pris un traitement tout de suite pendant la primo-infection. Et bien en fait, ce qui se passe, c'est qu'on empêche le virus de galoper partout, d'établir des réservoirs partout dans le corps. Et après, un petit temps, alors qui se compte en années, 2, 3, 6 ans de traitement, on peut arrêter le traitement et le système immunitaire de la personne contrôle. Donc il y a eu un suivi au long cours. En 2015, globalement, pour vous donner une idée, sur les 20 patients qui avaient été suivis la suite de cette étude-là, de cette façon-là, on avait une médiane de rémission, c'est-à-dire de non-ressortie du virus, de contrôle naturel qui s'était fait pendant 9 ans, avec grosso modo des personnes qui avaient pris un traitement pendant la primo-infection et 4 ans. Donc prise du traitement pendant la primo-infection pendant 4 ans et le virus contrôlé pour beaucoup d'entre eux pendant quasi 10 ans, quoi. Donc si on revient à cette fameuse cascade de prise en charge que vous présentait le docteur Prasuc, il est clair que de ne pas se faire dépister, ça peut revenir à avoir un certain nombre de pertes de chance, puisque plus l'infection est connue tôt, plus on peut vous donner le traitement tôt et vous permettre de contrôler sans traitement, bon, en étant suivi bien entendu quand même, mais on a de meilleures réponses au traitement. Et puis surtout lorsque il n'y a pas de charge virale et que le virus est contrôlé, eh bien vous n'êtes plus en mesure de transmettre l'infection. C'est ce fameux U égale U, pas de transmission quand le virus est indétectable.
Alors oui, je voudrais juste apporter une précision par rapport à ce qu'on a fait à Orléans. C'était pas une étude prospective, c'était une étude rétrospective. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'à Orléans, on est un peu des pirates. On ne suit pas les recommandations. Donc à l'époque, il ne fallait pas traiter la primo-infection. Et tous ces patients, ils avaient une primo-infection symptomatique. Alors que les contrôleurs naturels, ils n'ont pas de primo-infection symptomatique. J'ai une patiente, elle avait 1 million de charges virales et elle était vraiment malade quand elle a fait la primo-infection. Et on l'a dépistée dans les 3-4 semaines après la contamination. Et on a traité, alors qu'on dit non, il ne faut pas traiter, ou éventuellement vous pouvez traiter, mais au bout d'un mois, vous arrêtez le traitement. Donc, ok, mais nous, on croit à autre chose, enfin voilà, ça ne nous semble plus rationnel. Il y a l'empirisme et le rationalisme. Le rationalisme, c'est bien français, on se dit, tiens, là, il me semble que, voilà. Et puis ensuite, il y a eu, une mode dans les années 2004, 95, on a les traitements, la trithérapie, mais elle est lourde. Il y a beaucoup de comprimés à prendre. Et dans les années 2000, 2003, 2004, les patients, ils en ont marre. Et puis, ils ont des toxicités. Vous verrez, les lipoatrophies du visage. Donc, il y a des effets toxiques des traitements. Et ils ont envie de vacances. Je veux des vacances. OK ? Donc, un certain nombre de centres, et nous, on a été volontaires parmi les premiers à dire, OK, on fait des vacances thérapeutiques. On surveille les lymphocytes CD4. Dès qu'ils retombent en dessous de 350, on reprend le traitement. Et donc, on a pu arrêter le traitement à un certain nombre de personnes qui étaient remontées à 700, 800 CD4. OK, vous soufflez pendant un certain nombre de mois. Alors aujourd'hui, on ne le ferait plus parce qu'on sait que le virus revient, c'est de l'inflammation chronique qui revient, ça remet tout le système immunitaire. Donc, on ne le fait plus parce que les traitements sont beaucoup plus simples et sont beaucoup moins toxiques. OK ? Mais ça nous a permis de dire, ah, tiens, et comment ça se fait que votre charge virale, elle ne remonte pas ? Donc, on l'a analysé, on a regardé, ah, mais tiens, ils ont tous été traités. Ah, donc, j'en ai eu trois ici à Orléans. Donc, je suis allé les présenter à Paris. Ils m'ont dit, non, non, vos patients, ils n'existent pas parce que s'ils existaient, nous, à Paris, vous pensez bien, on les aurait vus.
On est trop fort à Paris.
Voilà. Donc, et donc, je suis allé voir Christine Rousiou. Parce qu'à la Pitié-Salpêtrière, elle me disait non, c'est pas possible. Et Christine Rousiou, elle m'a pris au sérieux. Christine Rousiou, elle était dans le papier de découverte du VIH. Et on a travaillé ensemble avec Véronique Avetan-Fenoël, qui est la nouvelle professeure de virologie, qui est maintenant à Orléans, et qui était la responsable de l'Institut Cochin. Et donc, qui travaille sur les réservoirs. Donc, vous voyez, c'est un peu. La recherche, ça se nourrit d'observations qu'on fait au jour le jour en voyant les patients. Et après, c'est la collaboration qu'on fait avec les scientifiques, comme Lucille, comme Véronique, comme Christine Rousiou, qui nous permettent de dire, ah là, on a une hypothèse. Ah, peut-être qu'on se trompe, mais peut-être qu'il y a quelque chose dessous. Donc, c'est vraiment cette recherche translationnelle qui va d'abord de l'observation clinique vers la cellule, puis qui va retourner après, peut-être avec des modèles animaux, chez l'humain.
Est-ce que le public a quelques questions ? Oui. Donc il y a une personne du public qui demande pourquoi on passe de 84% à 74%.
Alors on passe de 84% à 75% parce que, un, il y a le délai entre le moment où on fait le diagnostic et le moment où on met sous traitement. Parfois, il faut attendre un mois. Maintenant, on le fait de plus en plus rapidement. Mais des patients qui sont en phase chronique, qui ont le VIH depuis longtemps, qui ont des CD4 qui sont bons, donc ils n'ont pas d'immunodépression, il faut qu'on fasse des analyses, notamment le génotype du virus, pour savoir si le virus il est résistant à certains médicaments, de manière à donner le traitement de façon optimale. Puis il y a des patients qui sont des contrôleurs naturels du VIH, puis il y a des patients sont diagnostiqués mais qui refusent de prendre le traitement et donc qui sont en dehors du système de soins. Donc tout ça additionné, ça fait 9% des patients. Mais il y a parmi ces 9%, il y en a quand même un certain nombre qui vont être mis sous traitement assez rapidement. Et après, la différence entre 75 et 68, c'est que la charge virale, elle va, on va le voir, elle baisse, mais elle devient indétectable entre 3 mois et 12 mois après l'initiation du traitement.
Ma question, c'était de savoir si c'était fréquent d'avoir des symptômes durant la primo-infection et que si c'est le cas, pourquoi est-ce que c'est que maintenant on commence à se pencher sur un traitement durant cette période-là ?
Alors, avec les études qu'on a réalisées, la cohorte Visconti, donc il y a plus de 20 patients en Europe, il y a une cohorte Visconti Europe actuellement avec une cinquantaine de patients. Donc vous voyez, les Américains, eux, ils communiquent sur les patients qui ont été greffés, greffe de moelle et qui sont guéris. Ils ne veulent pas entendre parler de nos patients, alors que ceux-là sont en rémission complète. Mais c'est quasiment la même chose. Depuis, le traitement en primo-infection, il est recommandé, bien évidemment, depuis 10 ans. Mais c'est suite à ces résultats. La primo-infection, elle est symptomatique dans environ un cas sur deux. Mais quelquefois, ça, c'est une angine qui va durer 15 jours, 3 semaines. Donc, on ne va peut-être pas faire attention. Donc, ça peut être une éruption de boutons. Ça peut être quelque chose de très symptomatique ou de pas du tout symptomatique ou entre les deux. Et pourquoi ce n'était pas recommandé ? Pour deux raisons. C'est parce que les traitements étaient toxiques. Et donc on se disait, bah, on va attendre le plus longtemps possible pour donner le traitement, pour pas mettre le patient en danger. Et voilà. Donc à un moment, l'autorisation de mettre les patients sous traitement, c'était 200 CD4. Au-dessus, on n'avait quasiment pas le droit. Puis après, c'est monté à 350. Parce que 350, on savait que, mais entre 200 et 350, on peut quand même faire un zona, on peut faire une pneumocystose aussi. Et puis après, c'est passé à 500. Mais ça s'est passé sur 6-7 ans. Et puis après, c'est passé à tout le monde. Mais il a fallu, entre 1995 et, on va dire, 2010, on est passé de « vous ne donnez les traitements qu'à partir de 200 » à « vous donnez les traitements à tout le monde ». Parce qu'on a accumulé des données en disant plus les traitements, moins les traitements étaient toxiques et plus ça valait le coup. Et puis, il y avait surtout le U égale U qu'on ne connaissait pas à l'époque. Vous n'avez... les patients qui donc étaient porteurs du VIH non traité, ils continuaient à transmettre. Donc, on est passé dans un autre paradigme qui était de dire, bon, ben, déjà, tout cela, on les connaît, ils sont traités et ils ne vont plus... On va casser la chaîne de transmission. Voilà. Mais voilà, il y avait beaucoup de choses. Enfin, on a appris à connaître. Hein.
C'est la fin de ce deuxième épisode sur cette série de podcasts sur le VIH, dans le cadre d'une conférence sur le VIH organisée par Tributaire avec FEM, avec le docteur Thierry Prazuc et le docteur Lucille Mollet. Merci à tous nos éditeurs et auditrices.
Vous pourrez réécouter cet épisode et la série de 4 épisodes sur orléans.radiocampus.org dans la catégorie La science infuse. Vous pourrez également retrouver les différents réseaux sociaux sur Instagram, fem.45, tribu.terre et radio_campus_orléans. Dans le prochain épisode, nous parlerons du contexte social, de la mortalité et espérance de vie des personnes atteintes du VIH.
Radio Campus. La science infuse.
Restez avec nous sur Radio Campus Orléans. Vous nous écoutez toujours sur le 88.3 FM dans cette émission La science infuse. Dans quelques minutes, nous partirons en voyage vers la Lune. Tout de suite, Martin Street Special de Nkoto Teles. We'll be right back. Martin Street Special, un titre de Nkono Teles à l'instant sur Radio Campus Orléans. Vous êtes toujours dans la science infuse. D'ailleurs, prochaine étape de notre voyage jusqu'à 15h, c'est Félix qui nous emmène jusqu'à la Lune.
Salut à tous, c'est Félix. Bienvenue sur Radio Campus Orléans. J'espère que vous allez bien. En fond, vous avez peut-être remarqué, vous avez entendu Fly Me to the Moon de Louis Armstrong. C'est pas par hasard que j'ai mis cette musique, parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de la Lune. Alors de la Lune, bon, il y a beaucoup de choses à dire, évidemment, mais plus précisément de deux actualités, ou plutôt, on va dire, une actualité et un anniversaire. La première actualité est quand même assez importante, qu'on a reçue il y a quelques semaines. Vous savez peut-être que la NASA, en ce moment, essaye de retourner sur la Lune, d'y renvoyer des hommes avec un grand H cette fois. Et bien malheureusement, c'est plutôt une mauvaise nouvelle qu'elle nous a annoncée, vu qu'il y a quelques jours, elle a annoncé le décalage. Elle a repoussé tout simplement ses futures missions. Juste pour vous représenter un peu donc, ce qu'on appelle le programme Artemis, qui est donc le programme de retour de l'homme sur la Lune. La mission Artemis 1 a déjà eu lieu en novembre 2022, vous en souvenez peut-être. Et donc, ce qui était prévu, c'est la mission Artemis 2, qui prévoyait le retour des hommes autour de la Lune. Et ensuite, la mission Artemis 3, avec cette fois-ci le retour des hommes sur la Lune. Hommes avec un grand H, étant donné que, par exemple, pour Artemis 2, il y aura à bord une femme, et au passage aussi le premier afro-américain et le premier non-américain, puisqu'il y a aussi un Canadien à bord de cette mission. Et cette fameuse mission, donc, Artemis 2, qui devait décoller en novembre de cette année, est finalement repoussée au minimum à septembre 2025. Donc il va falloir quand même attendre au moins un an de plus. Et Artemis 3, donc celle du retour de l'homme sur la Lune, pas avant septembre 2026. Donc ça fait quand même des assez gros retards. Ça faisait longtemps d'ailleurs que ces missions n'avaient pas été repoussées. Alors on est en droit de se demander, mais pourquoi finalement? Et bien tout simplement des problèmes techniques, en fait, hein, la NASA a avoué. Des problèmes techniques liés à des valves du système de support de vie, par exemple de la capsule qui permet de maintenir les astronautes en vie. Des assez gros problèmes électroniques, ainsi que des analyses. De l'usure du bouclier thermique de la capsule de Artemis 1, donc la mission de novembre 2022, comme je vous le disais. Et au passage aussi, quelques réparations sur la tour de lancement qui a visiblement été légèrement abîmée par le décollage de la très puissante fusée SLS. Voilà, donc selon Amit Kshatriya, une responsable de l'exploration de la Lune et de Mars à la NASA, c'est surtout le système de support de vie qui pose le plus de problèmes. Elle nous dit donc que des tests ont été faits, mais que le matériel doit malgré tout être remplacé pour tout simplement garantir la sécurité de l'équipage. Et c'est d'ailleurs ce que nous dit aussi Bill Nelson, l'administrateur en chef de la NASA. Je cite, « On ne vole pas tant que c'est pas prêt, et la sécurité, c'est la priorité. » C'est des paroles qui résument assez bien la raison de ces retards. Il faut bien comprendre que le programme Artemis, donc de retour sur la Lune, ça reste quand même un programme assez risqué. Hein. C'est pas parce qu'on est déjà allé sur la Lune il y a 50 ans que forcément on est capable de le refaire comme ça en claquant des doigts. Ça reste assez risqué, ça reste assez nouveau pour la plupart des technologies, et il faut bien comprendre que mieux vaut une mission retardée, mais dont l'équipage est plus en sécurité, où il y a moins de risques, plutôt que se dépêcher et faire le travail de manière bâclée, on va dire. La NASA a quelquefois opté pour cette solution et on sait malheureusement que ça s'est parfois très mal fini, y compris pour certaines missions habitées. Donc, il ne faut pas non plus trop désespérer. Le but de la NASA, ça reste quand même toujours, on va dire, d'atterrir sur la Lune avant l'année 2030. Mais en tout cas, c'est mieux d'avoir une mission quand même retardée, mais qui se passe bien, comme ça a été d'ailleurs pour Artemis 1, qui a été beaucoup retardée, qui au final s'est très bien passée, plutôt que, encore une fois, une mission qui décolle trop vite et où l'équipage se retrouve finalement en danger. Et enfin, la deuxième actualité, qui est plutôt un anniversaire, peut-être certains d'entre vous aiment bien Tintin. Eh bien, sachez que ça fait 70 ans depuis la sortie du 17e numéro de Tintin, On a marché sur la Lune, sorti donc en janvier 1954, dessiné et écrit par Hergé, évidemment, très connu. Il y a eu quelques prépublications de certaines planches qui ont été faites dès 1950, mais la version finale, on va dire définitive de la BD, est sortie donc en janvier 1954, il y a 70 ans tout pile. C'est la suite du 16e numéro Objectif Lune, lui publié en 1953. Et je voulais vous en parler parce que c'est quand même, on va dire, une référence culturelle et à l'époque même scientifique, assez importante en fait. C'est 15 ans avant le premier pas de l'homme sur la Lune par Neil Armstrong, et c'est même avant les premiers vols habités et même avant le premier satellite. Donc autant vous dire qu'à l'époque, on ne connaissait pas grand-chose sur l'espace en lui-même. Il y a même des scientifiques qui disaient qu'on ne pourrait jamais envoyer d'homme dans l'espace parce qu'il n'y survivrait pas, tout simplement. Donc c'est assez intéressant aussi de voir dans cette BD à peu près toutes les prédictions, on va dire, l'anticipation qui a été faite sur les sciences spatiales, avec pas mal de choses qui sont assez vraies quand même. Par exemple, le whisky du capitaine Haddock qui se met en boule lié à la pesanteur, l'absence de son aussi dans le vide spatial lorsqu'ils sont sur la Lune. La fusée aussi, que vous avez peut-être en image, cette fusée en damier rouge et blanc, qui est finalement inspirée des seules fusées qu'il y a à l'époque, tirées malheureusement des missiles V2 nazis. Donc c'est quand même beaucoup de choses qui sont assez bien représentées. Bon, il y a quelques défauts malgré tout, mais on ne va pas leur jeter la pierre. Les paysages lunaires, par exemple, qui ne sont pas forcément très réalistes comparés à ce qu'on sait aujourd'hui. La fusée, justement, qui fait tout le voyage en un seul morceau, en un seul étage, on va dire, ça aussi, c'est assez compliqué encore aujourd'hui. Mais bon, Hergé a quand même été aidé pour certains aspects scientifiques, et honnêtement, on ne va pas leur en vouloir à cette époque de ne pas avoir su prédire, on va dire, ce genre de choses. Mais voilà, je voulais vous en parler parce que ça reste quand même, du moins en Europe, une référence culturelle sur l'espace assez importante. Un des premiers récits, on va dire, contemporains de voyage sur la Lune, du moins de l'époque de la conquête spatiale. Il y en aura plein par la suite, pendant les années 50 et 60, des films, des livres en tout genre de science-fiction, de conquête de la Lune et même au-delà. Et celui-là, c'est un des premiers et c'est quand même assez connu. En Europe, du moins, c'est vraiment une référence, on va dire. Beaucoup de gens s'en souviennent encore.
Ah, oh, quel spectacle hallucinant! C'est... comment vous le décrire? C'est un paysage de cauchemar, un paysage de mort, effrayant de désolation. Pas un arbre, pas une fleur, pas un brin d'herbe. Pas un oiseau, pas un bruit, pas un nuage. Dans le ciel, d'un noir d'encre, il y a des milliers d'étoiles, immobiles et glacées, sans ce sentiment qui, de la Terre, nous les fait paraître si vivantes. Je descends à présent les échelons de la fusée. Plus que 3, 2, 1, 0. Ça y est, j'y suis. Et voici maintenant Milou qui vient me rejoindre. Et voilà, Milou est le premier chien à marcher sur la Lune.
Voilà pour ces deux petites actualités, on va dire, sur la Lune. J'espère que ça vous aura plu. Ça sera en rediffusion sur La Science Infuse sur notre site internet orléans.radiocampus.org. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt.
Radio Campus. La science infuse.
À Under the Willow Tree, un titre de The Natural Yogurt Band. Vous écoutez ça sur Radio Campus Orléans. Bel après-midi à vous. Dans 8 minutes, le moulin à parole.
Now I've been up first. lessons. I was still a baby in a nursery, rapping like a caddy in a purse. I'm the worst, won't you curse me? Living like it's bowling, got a strike, now you can't work me.
Yeah, we got problems, yeah, we need dollars, but we don't solve them, savvy, you call it.
That's some mean shit, I ain't mean it, probably. Girl, you got my heart. Girl, you got my, girl, you got my heart, so what? Girl, you got my heart. Girl, you got my, girl, you got my, girl, you got my. Girl, you got my heart. Girl, you got my, girl, you got my heart, so what? Girl, you got my heart. Girl, you got my, girl, you got my heart, so what? I've been all alone. Girl, I miss you. Put my playlist on. You're my favorite song, baby.